Hello!
C'est parti!
Est-ce que vous êtes prête?
Est-ce que vous êtes chaud?
Est-ce que vous avez un téléphone à proximité?
On espère pour vous parce que ce soir, c'est...
Bras-Zéro spécial jeu! Ready pour mettre votre jeu en jeu?
Parce que si je te tue pour de faux, je ne te tue pas en vrai.
Jouer pour faire comme si, jouer en faisant semblant, jouer pour faire ensemble.
Jeu initiatique.
Didactique.
Symbolique.
Mimétique.
Rituel.
Coopératif.
Ou compétitif.
Ce soir, on explore tout ça. Les règles du jeu en plusieurs étapes.
Un ludologue qui nous expose sa philosophie de jeu.
Des enfants qui jouent et qui nous expliquent à quoi.
Une comédienne qui nous raconte.
Une chorale qui joue avec ses cordes vocales.
Une dissection de Barbie et Ken.
Bras-Zéro, Bras-Zéro, Bras-Zéro au jeu.
Mais tout de suite et sans plus attendre pour mettre fin à votre impatience, laissons la parole à nos deux présentatrices vedettes et je me tourne vers elles, Marie-Pierre Foucault et Liana Lepers. Bonsoir.
Bonsoir.
Et que va-t-il se passer pour nous ce soir?
Alors, à l'occasion de cette émission spéciale jeu, nous avons confectionné un quiz spécial Bras-Zéro.
À l'attention de tous les fans de Bras-Zéro, vous avez un coup d'avance, étant donné que le thème du quiz est Bras-Zéro lui-même.
A gagné de nombreux lots extraordinaires. Et oui, le ou la gagnante remportera non pas un, non pas deux, mais quatre cadeaux exceptionnels, un kit complet Bras-Zéro Panoplie.
Tout d'abord, chère Marie-Pierre, il ou elle pourra choisir le prochain thème de l'émission.
Et oui, Liana Lepers, mais il ou elle aura aussi une super photo dédicacée de l'équipe de Bras-Zéro.
Ainsi qu'un livret de compte de la saison 1 de Bras-Zéro.
Et enfin, le clou du spectacle, assister en direct à l'émission de Bras-Zéro de son choix.
Incroyable, quel cadeau! La règle est simple, nous allons bientôt vous dévoiler 4 questions auxquelles vous devrez trouver les bonnes réponses.
À la fin de l'émission, nous vous donnerons le signal. Le signal pour appeler le standard au 05 61 53 36 95. Je répète, 05 61 53 36 95 et donner les initiales correspondantes aux bonnes réponses.
Mais Marie-Pierre Foucault et Liana Lepers, quelles sont ces questions?
Alors, il y a 4 questions. Première question. Combien d'auditeurs et d'auditrices podcast Bras-Zéro en moyenne?
Réponse A, 375. Réponse B, 8. Réponse C, 1200.
Ouh là là, c'est dur. Question numéro 2. Combien y a-t-il de personnes dans l'équipe de Bras-Zéro?
Réponse A, 4 les jours fériés. Réponse B, 23 en été. Réponse C, 9 en hiver.
Ça se complique, ça se complique. Question numéro 3. Laquelle de ces émissions Bras-Zéro n'a pas fait?
Réponse A, Bras-Zéro télé. Réponse B, Bras-Zéro faire ses courses. Réponse C, Bras-Zéro déchets.
On s'adresse aux experts. Question numéro 4. Quelle est la couleur du pull de Chico, notre chroniqueur favori?
Réponse A, bleu à paillettes. Réponse B, c'est une marinière. Réponse C, il n'a pas de pull. Rendez-vous à la fin de l'émission. Au signal, dépêchez-vous de téléphoner car le premier appel gagnant aura gagné.
Voyelle.
E.
Consonne.
B.
Consonne.
R.
Voyelle.
A.
Voyelle.
O.
Consonne.
S.
Consonne.
R.
Ah, moi j'ai bar.
Bar. J'ai zéro.
Ah non, zéro, c'est avec un
mais sinon, il y a aussi bras. En 7 lettres. Bras-Zéro.
Bras-Zéro jeu.
Bonjour, je suis Yves Roche. Je suis actuellement directeur à la ludothèque François Rabelais sur le quartier Saint-Jacques à Perpignan. Sinon, je suis un obélix du jeu. Je suis tombé dedans tout petit et j'ai toujours cherché à comprendre pourquoi le jeu, les jouets m'attiraient autant. Ça a été difficile parce que dans les années 70, point d'internet, point d'ordinateur, point de rien. Et par moi-même, j'ai essayé de comprendre d'où me venait ce plaisir et cette envie de jouer permanente. Et j'ai trouvé des réponses et je suis toujours en recherche de la réponse absolue. D'où ma vie autour du jeu. Et j'ai un jour, au détour d'un article dans un magazine, chez un toubib, chez un dentiste, point ne sais-je, j'ai vu un petit entrefilet qui parlait des ludothèques, lieu où existaient, vivaient les jeux et les jouets. Je me suis dit, voilà, j'aurai ma réponse ici. J'y suis allé et j'y suis toujours resté, que ce soit au niveau de Perpignan, ou au niveau régional, ou au niveau national, avec l'Association des ludothèques françaises. Et ensuite, m'intéressant au jeu, j'ai été amené à intervenir sur les formations professionnelles pour expliquer à quoi servait le jeu, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et donc, on était quelques-uns aussi sur la France à le faire. Et on a, je dirais, chopé le mot ludologue qui n'existait pas à l'époque, donc qui est apparu dans le dictionnaire en 1994, en disant. Et la définition, je crois que c'est dans le Petit Robert, était créateur de jeux pour les médias. Alors que sémantiquement, c'est plutôt la science du jeu, la connaissance par rapport au jeu. Donc, à la place d'expliquer longuement quelle était notre fonction et notre métier, on a utilisé le terme ludologue, qui maintenant va commencer à devenir peut-être plus encadré, plus officiel. Mais voilà, le ludologue, c'est un généraliste par rapport au jeu, ça fait poser des questions aux gens, etc. Mais actuellement, je suis plus ludothécaire que ludologue. Les premières recherches autour du jeu, même si d'une manière globale, on peut dire aussi que ça remonte à la fin du XVIe siècle, hein, pour faire très vite. Pourquoi ? Parce que des mathématiciens, et à l'époque la science était entre guillemets à la fois divine et très respectée, des mathématiciens se sont intéressés à la théorie du hasard. Et la théorie du hasard, c'est partie des jeux. Et donc du coup, globalement, toute la gente chercheuse, entre guillemets, s'est intéressée au jeu. C'est pour ça que Pascal s'est intéressé au jeu. Et tout le pan des mathématiques sur la théorie des jeux et sur les statistiques sont tirés de tous ces travaux des mathématiciens au fin du XVIe siècle sur le jeu.
Attends, juste pour savoir, c'est qui la personne dont tu parles là ?
Pascal.
Pascal, notre Pascal national. Qui a écrit.
Qui a inventé la calculatrice.
Voilà, par exemple.
Mathématicien.
Voilà, d'accord. Vous avez votre réponse.
Ok.
Donc, du coup, le jeu est apparu comme quelque chose de moins futile, de moins enfantin. Et petit à petit, on est arrivé à ce que le jeu soit de plus en plus pris en compte. Mais ça a aidé aussi, parce que qui a dit jeu dit rapprochement avec les enfants. Et le jeu a participé, cette prise de conscience de l'importance du jeu, par les mathématiques au départ, a permis aussi une réflexion sur les enfants. Et on est arrivé au siècle des Lumières, où l'enfant est devenu à la fois aussi une personne en tant que telle. Et le raisonnement aussi partait que le jeu des enfants était quelque chose de sérieux, et qui permettait aussi son développement. Ça a commencé là, et après, 17e, 18e, a commencé par les mathématiques. On a fini par Schiller. Philosophe allemand qui lui a bien écrit, je peut-être pas, c'est pas tout à fait la phrase des arts, mais l'homme n'est vraiment homme que lorsqu'il joue, et ça on le constate tous les jours. Le jeu, sans jeu de mots, hein, c'est le jeu, J-E. C'est-à-dire c'est l'individu à part entière. Hein. Quand on joue, on est vraiment soi. C'est vraiment, et c'est un paradoxe quand on imagine l'image du jeu, dans le jeu on ne triche pas. On est vraiment soi, quel que soit le jeu, que ce soit du théâtre, du sport, de la peinture. Hein. Et d'ailleurs, un des derniers philosophes à avoir écrit sur le jeu, contemporain, hein, Colas Duflo, pour lui, le jeu, c'est une invention de la liberté dans une illégalité. Et oui, parce que dans tout jeu, on va avoir une règle, mais une règle qui est dissociée de ce qu'est la règle ou la loi dans le monde entre guillemets réel, puisque dans le jeu, on va être dans quelque chose à la fois de détaché de la réalité, dans un espace-temps défini, avec sa propre règle. Et dans cette propre règle, on a toute la liberté. Tout individu a ce pouvoir de pouvoir créer un espace-temps particulier, donc une liberté particulière, avec ses propres règles, qui peuvent être des règles induites par l'individu ou induites par un groupe. Et là, on a la règle du jeu, qui est un code qui est partagé entre tous les joueurs. Donc le jeu, c'est l'apparition de l'homme, hein, et ça finira avec lui. Jeu a évolué, du moins la perception du jeu, aussi bien au niveau du public que professionnel. On ne nie pas maintenant l'importance du jeu, même s'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas résolues, mais on sait très bien que le jeu, c'est la garantie d'un adulte, en pleine possession de son jeu, de sa liberté aussi. Hein. En français, on a un seul mot, on dit jouer, jeu, il n'y a qu'un seul mot. Dans d'autres langues, il y a plusieurs mots pour indiquer si on est en train de jouer ou et l'objet de jeu. Il y a une différence. Quand on parle de voilà, j'aime pas jouer, la plupart des personnes renvoient l'image qu'on a plus ou moins du jeu, c'est de dire je prends, quand je joue, c'est à la marelle, aux cartes, je joue avec un objet. Or, si on est attentif à ce qu'est le jeu, c'est-à-dire un acte libre réalisé dans le plaisir, dans un espace-temps donné et sans contrainte, à ce moment-là, on joue tous. Donc, effectivement, il y a des personnes qui n'aiment pas jouer aux cartes, au Monopoly, à la marelle, qui ne jouent pas effectivement à des jeux ou avec des jouets, mais qui, quand on les observe, jouent aussi. Il y a des personnes qui disent « je n'aime pas jouer », qui font partie d'une troupe de théâtre. Le théâtre, c'est du jeu. Il y a des sportifs, des personnes qui pratiquent du sport qui disent « pour moi, je ne joue jamais », mais en fait, le sport, c'est un jeu. Quand on revient à l'essence même du jeu, toutes les activités culturelles sont du jeu, du moins de création. Quand on crée, on est libre, on le fait par plaisir, dans un espace-temps, avec tout... Et c'est effectivement quelque chose de gratuit. Gratuit en termes économiques, hein, je m'entends, parce que psychologiquement, le jeu n'est pas du tout gratuit, mais en termes économiques, effectivement, le jeu est totalement improductif. D'autres diront, oui, mais attention, un artiste, c'est pas gratuit, ça vaut des millions, etc. Non, la création, c'est l'acte de création qui est gratuit. Donc le jeu, si on résume, c'est plaisir, désir, libre et gratuit. Et après, il peut y avoir des nuances. Ma militance à moi, c'est d'être 100% dans tous ces critères. Donc effectivement, en ce sens-là, le jeu est très subversif. Quand on va au bout de l'analyse. Mais ça permet aussi de pouvoir, quelque part aussi, avoir une réflexion sur soi, des possibilités de pouvoir effectivement agir sur le réel. Parce que dans le jeu, on est vraiment soi-même. Donc quelque part, j'ai mon schéma en tête, libre, je le sens dans mes choix, parce que c'est une liberté de choix, le jeu. Quand on joue, on choisit le jeu, on en accepte la règle. Dans le jeu, on a totalement la liberté de pouvoir accepter ou refuser. Et quand on y rentre, on sait très bien que c'est les règles qui sont liées au jeu, et non pas l'inverse. C'est-à-dire, c'est une acceptation. La règle sociale, c'est une obligation. Et la grosse différence, elle est là. C'est pour montrer que la notion de plaisir dans le jeu est importante, parce que cet espace de liberté, qu'on accepte la règle, en acceptant la règle qui va avec, nous permet d'accéder à tous les plaisirs, quels qu'ils soient.
Alles Herren, ich sage das nur einmal. On commence le jeu, les retardataires sont éliminés. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden. Le premier qui obtient un total de 1000 points gagne un véritable char d'assaut.
Um zu arbeiten.
Sacré Vénard.
Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt.
Tous les jours, le classement vous sera communiqué par ce haut-parleur là. Et chaque jour, la personne qui sera classée dernière devra porter la mention Anne sur un carton accroché dans le dos.
Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen.
Nous, on joue le rôle des très très méchants qui aboient sans arrêt et qui donnent des ordres en hurlant. Ceux qui ont peur perdent des points.
Priver un individu de jeu, c'est priver de plaisir, d'actes gratuits, de règles, c'est-à-dire son propre espace-temps. Et tu vis plus. Tu te développes plus. Tu es fini.
Mais du coup, c'est pas possible de priver quelqu'un du jeu.
Ben c'est la liberté, il faudrait...
Ça veut dire que tu l'attaches, quoi.
Oui, ça veut dire que tu l'attaches. Et il y a un exemple pour moi qui ça me rappelle la vie est belle, le film de...
Oui, c'est ça, quoi, je pensais.
Voilà, la vie est belle, ben... Et puis les retours aussi, les retours de récits de personnes qui étaient dans les camps, hein, qui eux, parlent d'espoir. Mais quand on lit, quand on voit un peu les détails de ce qui se passe, c'était toujours du jeu, quelque part, introduire du plaisir là où il n'y en a pas. Et cet entretien de l'espoir venait qu'on avait... Même dans quelque chose où on était très, très restreint, on a été toujours en train d'inventer cette liberté dont parle Colas Duflot, cette liberté dans la légalité, cette espèce de jeu qui entretient tout, à la fois la vie, la flamme, etc. Et c'est vrai, ce père qui retranscrit un jeu par rapport au gamin, ce qu'il vit, c'est tout à fait ça, le jeu. Et priver quelqu'un de jeu, c'est ça. C'est le priver de sens, le priver de motricité, le priver de tout, en fait. Et là... Là, on comprend l'importance du jeu.
Et pendant ce temps-là, Miette joue dans son bain.
Maman, alors, tu veux jouer avec moi ?
Oui, c'est des mains.
1, 2, 3, et je pas.
Si tu dis les
Brasero tous les lundis.
Brasero tous les lundis à 19h sur Canal+.
Ça va, arrête.
ça va, arrête. T'es chiante.
Arrête de répéter ce que je dis.
Arrête de répéter ce que je dis.
Ah, je suis trop débile.
Ouais, je suis trop débile.
Brasero jeu.
Brasero jeu.
Brasero gamin. Pour moi, le jeu d'actrice, c'est pas très loin du jeu d'enfant. Pour moi, les données pour qu'il y ait jeu quand t'es un acteur, et c'est pas moi d'ailleurs qui les invente, Peter Brook, qui est un auteur, un metteur en scène, un théoricien du théâtre, il a formulé ça comme ça, et ça me parle. C'est un espace vide, un acte, une action, donc un actant, ça veut dire quelqu'un qui fait cette action, un temps, qui est le présent, et quelqu'un qui regarde. Et en fait, avec juste ces données-là, donc un espace vide, quelqu'un qui est dans cet espace, qui fait quelque chose et quelqu'un qui le regarde. Ça crée une convention, qui est celle du jeu du théâtre, où après, on peut tout inventer en direct, on peut vivre plein de choses. Et après, c'est juste l'envie d'y croire, de lui prêter un regard. Et c'est ça, pour moi, le jeu du théâtre.
Est-ce qu'il y a un rôle que t'aimes bien jouer particulièrement ?
Celui de la comédienne. Non, il n'y a pas un rôle que j'aime jouer particulièrement, parce qu'en fait, j'attache pas forcément beaucoup d'importance à ce qu'on peut appeler les rôles, c'est genre la psychologie d'un personnage ou un type de personnage, parce que je trouve que le théâtre, c'est pas vivre des vies par procuration, c'est toujours vivre sa vie à soi, mais super intense, parce que t'es dans l'intensité de l'invention, t'es dans l'intensité du rapport au public, du rapport à tes partenaires. Et finalement, le rôle que tu joues, c'est une enveloppe, c'est un prétexte. Et après, il y a des choses qui nous parlent plus ou moins, selon ce qu'on nous propose artistiquement. Mais en fait, c'est vraiment l'expérience du jeu, justement, qui est super forte. C'est pas tant de jouer machin, truc ou bidule, je trouve.
Mais c'est un jeu que, du coup, que tu prends au sérieux ?
Bah ouais, grave. Bah, de toute façon, si tu le prends pas au sérieux, ça fonctionne pas. Parce que t'as trop besoin de ton imagination, t'as besoin de croire à la situation, tu t'inventes une histoire. Et si déjà toi t'y crois pas, les gens à qui tu la racontes, ils le sentent direct que t'y crois pas. Donc en fait, c'est super sérieux. et c'est voire même un peu dangereux. Pas dangereux d'y croire et de se perdre dans l'imaginaire, parce qu'on sait toujours où on est quand on joue au théâtre. Et si on sait pas où on est, c'est que y a un problème. En général, on sait où on est. Mais par contre, c'est dangereux dans le sens où tu te lances et jouer, c'est une prise de risque, parce que c'est faire une proposition. C'est un lâcher prise aussi, c'est prendre le risque d'être ridicule, d'être défaillant, parce que des fois tu joues et tu te rates, des fois le jeu il est nul, des fois ta proposition elle est pas valable, etc. Donc quand tu joues, et encore plus au moment où il y a les spectateurs, ben c'est accepter une sorte de saut dans le vide, même si ce saut dans le vide il est préparé, parce que tu l'as répété, il y a quand même cette notion de présent. Et si tu l'as pas, ça devient super chiant, parce que t'es juste quelqu'un qui récite son texte, et là ça joue plus, parce qu'il y a plus cette donnée de risque ou de danger, quoi.
Est-ce que tu crois que dans la vie, on joue comme au théâtre ?
Je pense pas. Je sais pas comment je peux répondre à cette question, parce que ça me fait penser à... quand t'es comédien, souvent, on me dit « Ah, mais donc là, tu peux me faire croire ce que tu veux, ou est-ce que t'es sincère ?» On pose souvent la question de la sincérité. Alors que c'est pas vrai, parce que le théâtre ou le métier de comédien, c'est pas un métier de manipulateur, déjà, parce que quand t'es dans un théâtre, tout le monde est au courant qu'on va raconter une histoire. Dans art, il y a artifice, et tout le monde sait que c'est faux, et c'est le plaisir de prendre le temps d'une représentation, le faux pour du vrai. Et après, le réel, c'est le fait d'être ensemble, c'est la transpiration des acteurs, c'est l'engagement physique. Mais encore une fois, c'est pas l'histoire. Tout le monde sait très bien qu'elle est fausse, et c'est pour ça qu'on peut se la raconter et aller loin dedans. Et du coup, dans la vie, non. Après, là où le théâtre, il me sert dans la vie, et dans sa dimension joueuse, c'est dans une exigence, je sais pas, de liberté, c'est dans une exigence du présent, c'est être sensible à l'espace, à comment les gens se comportent dans l'espace, au corps qui t'entoure, à ce qui se dit, c'est le goût des humains et de les observer. Mais en tout cas, c'est pas jouer, parce que dans la vie, il n'y a pas ce côté laboratoire neutre, il n'y a pas d'espace vide, l'espace il est tout le temps plein des autres, plein de soi, et du coup, on peut parfois sûrement y être joueur, mais en tout cas, c'est pas du jeu d'acteur, c'est du jeu d'humain. Ou de vivant.
Et pendant ce temps-là, Miette joue encore dans son bain.
Je me disais, Miette, pourquoi tu prends une voix aiguë comme ça quand tu joues ?
Parce que j'aime bien, voilà.
Ok. Et t'aimes bien jouer à quoi ?
T'aimes jouer au petit canard. Regarde la baleine, les rois. Tu peux flotter, bien sûr, comme nous. Oh, regardez. Le roi, maintenant il est roi. Le plus de baleine.
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, la première de...
Mais d'où tu me gifles là comme ça ?
Bah je sais pas, t'as pas de barbe.
Bras zéro jeu.
Vas-y, mais on recommence là, parce qu'en fait j'aime pas du tout la triche. Alors.
Je te tiens, tu me
tiens. Vas-y.
J'ai même pas fini la chanson là.
Bras zéro triche.
Vas-y, moi je joue plus, hein.
Ouais, c'est clair. Ouais. Non plus.
I see Kumbhanejar, the glaze of me, que son triole jar, semblame dire taime. I see in my prison, ma vida se debano, debano. Debano, total à plus de l'anneau.
Est-ce que tu considères que chanter, c'est jouer d'un instrument de musique ?
Oui, des fois. Et qu'est-ce que c'est cet instrument ? Non, en fait, je sais pas. Ouais, je joue de ma voix.
Quand t'as un instrument entre toi et les gens qui t'écoutent, c'est pas pareil que quand juste tu chantes, en fait.
Ouais, pour moi, la voix, c'est quand même un instrument de musique que t'as toujours sur toi. Et que tu peux faire vibrer comme tu l'entends.
C'est un genre d'instrument de musique interne. Mais du coup, t'es un peu plus tout nu, quoi. T'as pas l'instrument par devant toi, quoi. T'as l'instrument à l'intérieur. Du coup, ça vibre de toi, quoi.
Moi, j'ai dit non. Non.
Alors, pourquoi c'est pas un instrument de musique de chanter ?
Chanter, c'est sentir de chanter, de, tu vois, d'avoir envie de chanter, tu vois. Pour moi, c'est ça, de kiffer ce que tu fais, tu vois. Ça dépend, tu peux pas avoir... Même ça, on peut créer un instrument avec ça, tu vois. Tu peux chanter, la je veux jouer avec la canette, on peut toquer, tu chantes, ça va faire un truc que... Si on est ensemble, ça va faire un truc de bien, quoi.
Le premier instrument de musique qu'on a, c'est les cordes vocales. Donc, chanter, je peux considérer ça comme un instrument de musique, oui. Jouer, c'est jouer un instrument de musique, oui.
Alors que nous continuons notre enquête à l'extérieur.
Tout à fait. Durant ce week-end sauvage.
Oh, dis donc. Et deuxième question.
Est-ce que pour toi, la canaille, c'est plus du jeu ou du sérieux ?
Un savant mélange des deux. On le voit bien dans ce week-end sauvage. Ouais, non, c'est vraiment le mélange des deux. Il y a du jeu et du sérieux parce que l'idée, c'est pas non plus de chanter pour nous, mais aussi d'avoir un but, d'avoir un sens poétique derrière.
Ouais. Ça dépend des fois. Moi, j'aime bien que ce soit pas trop du sérieux quand même. Mais en vrai, c'est quand même du sérieux parce que c'est quand même des chants de lutte. C'est quand même quelque chose de sérieux de transmettre aussi une histoire des luttes. Mais si c'était que du sérieux, on rigolerait pas autant et ça serait dommage.
La canaille du midi ?
Du jeu ou du sérieux ?
Tu me laissais 4 heures sur table pour réfléchir à ça.
Moi, je pense que jouer à la canaille, c'est plutôt genre jouir, c'est-à-dire un mélange entre jouer et agir. Et que comme la canaille, c'est une rencontre de lutte et aussi contestataire et on s'amuse bien quand même. Moi, je m'amuse bien depuis que je suis arrivée et c'est très plaisant de chanter tous ensemble. Donc, il y a un truc très jouissif d'être en action alors que parfois on est paralysé dans le quotidien et qu'on aimerait agir un peu plus. Et là, c'est un endroit en fait de libération en fait pour agir. Ensemble.
Et c'est en ça que c'est à la fois sérieux et un jeu.
Et un jeu.
Ouais. Les deux.
Que ben de la loeto, ben aiger mai que mai, ben jusqu'à plein d'oreto.
La canaille, du jeu ou du sérieux ?
C'est les deux !
Ouais, c'est les deux.
C'est le sérieux en jouant. C'est le sérieux en s'amusant.
Et en quoi c'est sérieux et en quoi c'est un jeu ?
On joue parce qu'on se donne la place de s'amuser, d'essayer des choses, je pense.
Et parce que c'est super bonne ambiance, on essaye. Et c'est sérieux parce que on essaye de... Ouais, on essaye d'avoir des pratiques militantes, ou en tout cas d'avoir des discussions sur des questions politiques. Et que du coup, c'est un peu sérieux, ça. En tout cas, c'est important.
Évoluer et surtout sur des sujets qui nous tiennent à cœur, que nous-mêmes en tant qu'êtres humains on sent que c'est sérieux et qu'on voudrait que ça se généralise.
Est bonne. Il y a le corps qui résonne.
Zan, zan.
Bien, bien, bien.
année du 9, la nouveauté au pied levé de nos divans assermentés. Oh, divin
vivant, dites-moi que la vie est un jeu. Dites-moi que la vie est un jeu, moi qui me perds si souvent dans les cercles d'un jeu. Je ou je, être ou paraître. Je ou je, être ou paraître. La question ne se pose plus, s'impose à nous et pas à pas. C'est la folie de nos vécus qui prend, qui mène, qui prend le pas. Sur les règles d'un jeu insensé, où les enjeux de nos égos brisés ne pèsent jamais les armes. Quand tu, il, nous, vous, elle, s'agitent les nouvelles, s'agitent les nouvelles. Les feux jaunissent la ville en féroce furie, les flammes de joie de vie en joviale fourmi. Et sa fourmi, l'entendez-vous, sur toi la vie t'appelle, sur toi la vie t'appelle.
Attrape-trappe et à passer la frontière et 1, 2, 3 soleil. Je passais la frontière, s'il y a par exemple, là le tabouret, c'est le camp, ici le tabouret, et là c'est le camp. Et il y a un loup qui va dire, pour passer, par exemple, ils sont dans ce camp, et il y a un loup qui va dire, pour passer la frontière, il faut des lunettes rouges. Et tous ceux qui ont des lunettes rouges, ils vont là-bas. Et ils peuvent passer. Et les autres, ils doivent courir pour aller dans le camp. Mais ça peut être aussi une robe bleue ou, je sais pas moi, un manteau. Quand il fait chaud, ou qui ont des barrettes roses ou, je sais pas moi, ou des pantalons gris, des trucs comme ça. En fait, l'année dernière, on avait fait un club de cordes à sauter.
Et en fait, on s'entraînait à faire de la corde à sauter. Et là, on fait des épreuves de corde à sauter, par exemple avec la marraine. On fait comme ça, après comme ça, comme ça, comme ça, et tout. On invente des postures, par exemple, il y a celle-là. Ninja! Et en fait, il y a ça, il y a le roulé comme ça, il y a comme ça, comme ça, comme ça.
En fait, on joue, par exemple, aussi à loup glacé. Là, quelqu'un, c'est un loup. Et il y a des petits enfants, j'ai dit. Et en fait, quand le loup touche un enfant, eh bien, il est glacé. Mais en fait, l'autre enfant, il touche celui qui est glacé. Et celui qui est glacé, il peut se libérer, mais il devient le loup. Et l'autre, et le loup, et l'autre loup, il devient un enfant. Mais si il touche l'enfant, eh ben là il devient un loup et l'autre il devient l'enfant.
Salut Ken, c'était bien le travail?
Oui, je suis un peu fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a à manger?
J'ai fait des haricots verts.
D'accord, tu pourras m'appeler quand ça sera prêt?
Oui, d'accord.
Et ben voilà, moi quand j'étais petite, j'adorais jouer aux Barbie. J'en avais plein. Tous les Noëls, je demandais tout le temps des nouvelles Barbie à ma mère. Et tous les Noëls, ma mère m'offrait des nouvelles Barbie. Et un peu la particularité, c'était que j'avais plein de sortes de Barbie. Alors j'avais les Barbie classiques blondes, belles, parfaites, enfin Barbie, avec leur Ken, voilà, pareil, blond, blanc. Donc le couple qui avait la grande maison, parce que j'avais deux maisons de Barbie, donc la grande maison, la Porsche décapotable, enfin voilà, tous les accessoires de Barbie. Et puis j'avais les autres Barbie, donc il y avait les Barbie un peu avec la peau mate, donc en général c'était des midge, donc brune, peau mate, et puis leur Ken aussi, brun, peau mate. Et du coup, bon, moi, je disais, souvent, je disais que c'était des Arabes, donc je m'identifiais pas mal à Midge. Et puis, j'avais aussi des Barbies noires. Enfin, j'en avais une Barbie noire et un Ken noir. Et bizarrement, même si je m'identifiais plus à Midge, et ben finalement, c'était tout le temps Barbie et Ken blond, qui avaient tous les meilleurs trucs, qui étaient les plus intelligents, les plus cool. Enfin, même dans les histoires que je faisais, finalement, c'était toujours les Barbie noires avec Ken noir qui étaient un peu débiles, où il leur arrivait des merdes, où on les maltraitait, où ils se battaient. Enfin bon, c'était toujours un peu les trucs négatifs. Pareil, la Midge les Ken un peu avec la peau mate. Enfin bon, c'était toujours, tout tournait toujours autour de Barbie et Ken, finalement. C'était Barbie qui organisait tout et puis les autres qui suivaient, quoi. Puis quand je jouais avec mes sœurs, pareil, donc je refilais toujours à mes sœurs les Barbies que je voulais pas, donc plutôt les Barbies noires ou brunes, et puis moi je prenais Ken et Barbie blonde, quoi.
Il y a une étude de psychologie sociale qui a été faite aux États-Unis avec des enfants noirs qui avaient entre 3 et 7 ans. Alors on leur a montré deux poupées, il y en a une qui était blanche et l'autre qui était noire, et on leur a posé des questions. Donc d'abord, on leur a demandé « Avec quelle poupée tu as envie de jouer ?» Donc la plupart ont répondu « La blanche ». « Quelle est la poupée qui est gentille ?» La plupart ont répondu « La blanche ». « Quelle est la poupée moche ?» La plupart ont répondu « La noire ». « Quelle poupée a une belle couleur ?» La plupart ont répondu « La blanche ». Et à la fin, on leur a demandé « Quelle est la poupée qui te ressemble le plus ?» La plupart ont répondu « La noire ». Et cette étude, elle a été faite pour la première fois dans les années 50 et elle a été refaite récemment. Et malheureusement, les résultats étaient les mêmes.
Et ce qui était intéressant aussi, c'est que finalement, je ne les mélangeais jamais. Donc toujours les blonds avec les blonds, les bruns avec les bruns, les noirs avec les noirs. Puis toujours des couples, du coup, hétérosexuels, avec leurs enfants, parce que j'avais aussi des bébés Barbie. J'avais donc de toutes les couleurs aussi. Donc pareil, leurs enfants de la même couleur, etc. Donc, et donc voilà, c'est un truc que je me suis rappelé
enfin, en tant qu'adulte, quoi, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on a commencé le spectacle avec Marie. Donc, c'est un spectacle qui s'appelle « Des lueurs pour les yeux, la grande fabrique de l'imaginaire dominant ». Donc, c'est un spectacle qu'on a créé un peu sur les questions de, à partir de nos expériences personnelles, sur les questions de racisme, sexisme et homophobie. Et comment, en fait, on intériorise et on crée un imaginaire dominant à travers nos expériences de vie. Et un peu, on raconte, nous, par quoi on est passé, un peu notre chemin, comment on a réussi un peu à réfléchir à des trucs et à un peu essayer de transformer ça. Et en fait, ça m'a choquée de me rappeler tous ces trucs-là. Enfin, à quel point, en fait, je reproduisais vraiment une société hyper raciste, sexiste, hétérocentrée, avec des classes sociales. Enfin, en fait, je reproduisais vraiment la société telle qu'elle était, mais dans son aspect le plus normé et horrible, quoi. Enfin, dominant. Alors que je trouvais que, bon, dans ma famille... on n'avait jamais été élevés un peu selon ces valeurs-là ou quoi. Mes parents, ils sont plutôt hyper en mode de gauche et tout. Du coup, à quand même nous élever autour du fait que... Enfin, en tout cas, sur les questions racistes, de faire gaffe, machin. Voilà. Du coup, ça m'a choqué en fait, de me dire qu'est-ce qui a fait que, quand j'avais 8 ans, je jouais comme ça. Enfin, qu'est-ce qui m'a mis ça dans la tête? Bon, c'est un peu la question aussi qu'on s'est posée avec Marie dans le spectacle et à laquelle on essaye de répondre un peu à travers tout le spectacle.
Et du coup, c'est quoi les principales réponses que tu as trouvées à pourquoi tu jouais
Les principales réponses, c'est que, en fait, depuis qu'on est né, et depuis qu'on est vraiment tout petit, on est exposé à ce modèle de société sans qu'on s'en rende compte. À travers déjà toutes les images auxquelles on est exposé, donc ça peut être à travers les médias, la télé, les livres, toutes ces images-là, mais aussi à travers les normes, en fait. Qu'est-ce qui est accepté socialement? La famille, papa, maman, les enfants. En fait, on intériorise toutes ces normes-là depuis qu'on est tout petit, quoi. On s'en rend même pas compte. Enfin, ça devient la normalité. C'est normal de vivre dans une société raciste, où il y a des classes sociales, sexistes, où c'est les femmes qui font à manger et on se pose pas la question. Et en fait, je pense que à 8 ans, en tout cas, j'avais pas encore développé du tout cet esprit critique de dire, on pourrait faire autrement. Non, pour moi, c'était ça la vie, quoi. C'était ça la normalité.
En fait, il y a des gens... Ils ont essayé de la faire en grandeur nature, tu vois, pour voir quelle gueule elle aurait, Barbie. Ouais, elle serait bien dans la merde. Parce que déjà, ses jambes, en fait, elles seraient trop fines et trop longues pour supporter le poids de son corps. Bon, c'est un peu chiant. À la limite, c'est pas très grave. Mais ensuite, sa taille, elle serait trop étroite. Du coup, son abdomen, il pourrait pas contenir tous ses organes vitaux. C'est un peu chiant, quand même. Et puis bon, pour finir, en fait, son cou serait trop fin aussi, donc ça pourrait pas supporter le poids de sa tête. En fait, sa tête, elle tomberait comme ça, ça lui ferait le coup du lapin, elle serait morte direct. Voilà. Donc bon, Barbie, elle est pas viable, non, elle peut pas exister. Mais c'est important de le dire, en fait, parce que c'est à cause d'elle, en fait, que ça nous bloque aussi tous nos imaginaires de ce que pourraient être les femmes, de ce que sont déjà les femmes, en fait. Déjà, tu peux choisir de pas être une femme, tu peux être Gwyn, tu peux être une France, tu peux porter un voile, tu peux être grosse, tu fais ce que tu veux.
J'avais aussi les Barbies, punk, entre guillemets. Hein. À l'époque, je disais pas du tout que c'était des punks. Donc, les Barbies vieilles... Donc, qui se casse au bout d'un moment, donc le truc classique où t'as la tête qui se pète, et du coup, après, quand tu lui remets la tête, ça lui fait un... Elle a plus de cou, donc du coup, on a l'impression qu'elle est grosse, enfin, elle devient moche, du coup, selon les normes, hein. Et les cheveux tout emmêlés, aussi, le truc typique où t'essayes de l'arranger en lui faisant des coupes, donc tu lui coupes les cheveux parce que tu te dis que ça va lui faire une super jolie coupe carrée, mais en fait, ça marche pas du tout, et elle se retrouve avec les cheveux complètement en l'air. Et donc, du coup, ouais, ces Barbies-là, c'était le pire de chez pire, donc c'était le bas de l'échelle sociale dans la société que je reproduisais. Donc moi, souvent, je disais que c'était des folles, c'était des espèces d'hystériques qui étaient tout le temps à poil, qui venaient faire chier. Enfin, en tout cas, c'était vraiment l'élément le pire que tu pouvais avoir, quoi. Et souvent, c'était des Barbies blondes, du coup. Parce que j'avais quand même plus de Barbies blondes, mais qui devenaient, du coup, le contraire, quoi. l'opposé de Barbie parfaite.
Hiya, Bobby.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world.
Oui, l'équipe de Brasero, j'écoute.
Oui, bonjour. Brasero ?
Oui, c'est bien ici.
Oui, c'est Lucette.
Bonjour Lucette.
Alors voilà, j'aimerais savoir si vous pouviez déplacer Brasero, les horaires, parce qu'en fait, ça tombe pendant ma partie de Scrabble avec ma copine Renée.
Brasero, jeu.
Ah oui, mais Brasero, c'est les lundis à 19h.
Game over.
C'est le jeu, ma pauvre Lucette.
Oh, merci de m'avoir décerné la garantie prix, le flux bas Carrefour. Merci à mon producteur. Oh. Merci à mes fans.
Oh, poupée, on est 200 jouets à être garantie prix le plus bas ici. Alors arrête ton cinéma, tu veux?
Ben nonours, tu es une mauvaise poêle.
Carrefour vous garantit le prix le plus bas sur 200 jouets de grandes marques. Carrefour, les prix bas, la confiance en plus.
Comment t'expliques, toi, que ces 10 dernières années, il y ait une multiplication de lieux, d'objets et de magasins de jeux?
Je crois qu'on revient à cette notion des libertés. Plus les libertés sont, d'après moi, hein, c'est juste, c'est empirique, hein, ma pensée, mais plus les libertés sont restreintes et plus on se retourne vers le jeu, sans s'en rendre compte. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect économique. Donc, du moment que, mais déjà, depuis le début du XXe siècle, fin XIXe, l'industrie, on dit bien l'industrie du jeu et du jouet, hein, a toujours été en augmentation. Et avec l'arrivée des vidéos, même économiquement, les objets de jeu sont ceux qui rapportent le plus. On ne sait pas négliger. Hein. Et ensuite, oui, cette notion de liberté qui est moins on a de liberté dans, je dirais, dans l'expression de la vie de tous les jours, plus on va se réfugier, mais chercher la liberté autrement. Associer la liberté au plaisir. Associer la liberté au plaisir, c'est dans tous les jeux.
Bon, les jeux aujourd'hui, ils reprennent de manière assez forte les logiques des rapports de domination. Les Barbie, elles vont être minces, blanches, les Action Man, ils vont être costauds, il va y avoir des jeux roses, des jeux bleus. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un des moyens d'apprendre la norme dominante, ça passe à travers les jeux?
Moi, je verserais l'impression, je dirais, c'est plus respecter le profit. Et ce respect du profit, ça passe par la norme, quoi. C'est-à-dire que plus je vais renforcer des normes qui ont la valeur qu'elles ont, et plus je vais vendre. Il faudrait penser autrement pour pouvoir vendre autrement. Donc c'est tout le système à réfléchir. Après, je réfléchis pas au-dessus, mais quand nous, par exemple là, je parle des ludos, hein, ou d'autres structures, en termes d'achat, on va effectivement contourner. Et on peut être des médias pour pouvoir permettre aux personnes de réfléchir, à dire ce qui est important, c'est pas le genre du jeu, hein, c'est vraiment le plaisir de l'objet. Et le plaisir de l'objet, ça passe par l'individu. Et l'individu ne se fait plaisir que par rapport à la neutralité. On le voit très bien avec les petits. Plus c'est neutre, plus ils prennent du plaisir. Pourquoi ? Parce que la neutralité dans l'objet, ça engage l'individu à pouvoir se projeter. C'est plus facile de se projeter sur un écran blanc que sur quelque chose où il y a déjà des tas de contraintes ou de normes. Et effectivement, quelque part, acheter des jouets normés, et fortement normés, ben ça, c'est dire ben, on te coupe de la liberté. À toi, individu, tu n'as pas le choix. Tu prends ça et ça va, en te confortant dans cette norme, tu n'as plus la liberté. On le voit avec les objets de la bibliothèque. D'ailleurs, les poupons et les poupées, la plupart du temps, elles finissent nues. Et on les rhabille. Pourquoi ? Parce que l'intérêt de l'objet, c'est justement à ce que la personne puisse se projeter en fonction de sa personnalité, de ses envies, de ses plaisirs. Donc, quand vous contrariez le plaisir, vous contrariez la personne. Enfin, effectivement, l'enfant, il ne va pas cracher sur l'objet. Hein ? Il n'est pas en état de conscientisation, mais quand il va grandir, quand il va avoir 15, quand il va pouvoir comprendre ce que représente l'objet, et on le voit souvent avec des réactions des personnes qui ont joué petits et qui deviennent adultes, ah oui, mais la Barbie, c'est, il y a les deux camps qui vont s'affronter. Mais parce que quelque part, il y aura une personne qui aura réalisé que quand elle était petite, ben, quelque part, l'environnement l'a formaté comme ça. Donc, c'est là où c'est très subtil. C'est-à-dire que on va prendre compte, on dit oui, mais l'environnement m'a formaté comme ça. C'est pas l'objet par lui-même. C'est que l'objet est venu renforcer. Donc, voilà la réflexion pour moi, stratégique et politique. C'est-à-dire comment arriver à concilier. Pour moi, l'objet de jeu est quelque chose qui va renforcer ce qui existe déjà. Dans le sens où ça va renforcer dans la norme, ou dans le sens aussi, ça peut faire conscience à l'inverse. Hein. C'est aussi, entre guillemets, le bienfait. C'est à l'inverse, ça peut faire prendre conscience qu'effectivement, c'est quelque chose qui existe, qui est énorme, mais ce n'est pas qu'un jouet, ça reflète aussi une réalité. C'est-à-dire, on s'adresse à un individu qui va devoir imiter le monde. Et il va devoir l'imiter en fonction de ses propres projections. C'est comme imiter le monde avec la liberté de pouvoir l'exprimer comme tu veux, c'est la meilleure façon. C'est vraiment un médiateur. Donc on a, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a les objets, qui sont les jeux et les jouets, l'individu et son environnement. Et que tout individu a besoin aussi, pour pouvoir comprendre ou agir son environnement, mais a besoin d'un médiateur. Et l'objet, l'objet de jeu, c'est pour moi le meilleur médiateur pour agir sur son environnement. Et agir sur son environnement, ça veut dire qu'on va grandir, qu'on va s'expérimenter, etc. Pourquoi ? Parce que cet objet de jeu, pour moi, enfant, va me permettre de modifier mon environnement. Sans me prendre un truc dans la gueule, enfin, pour faire très simple. Donc c'est ce degré de liberté dans la légalité, comme disait Cola, va me permettre aussi de pouvoir exercer mon pouvoir. Mais ce n'est pas un pouvoir maléfique, ce n'est pas un pouvoir de domination. C'est de prouver que j'existe et que je peux agir sur mon environnement. Et mon environnement va me donner une réponse grâce à cet objet. Sinon, imaginons, on prend tous les objets, un mauvais Papa Noël, il prend tous les objets de la Terre, et il n'y a plus d'objets, on ne va plus jouer maintenant. Maintenant, c'est tu vas obéir à ton environnement. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est autour de toi va te dicter ta conduite. On n'imagine pas ça. Et c'est ça la valeur du jouet. Donc prenons attention à la fois qualitativement et quantitativement à tout ce qu'on met à porter. D'où l'importance de tous ces petits objets du quotidien. D'ailleurs, on joue là, mais les auditeurs ne peuvent pas vous voir, mais toutes les deux, vous avez des objets entre vos mains, et depuis tout à l'heure, vous les manipulez en permanence. C'est ce que nous, on appelle le jeu d'exercice.
Et pendant ce temps-là, Miette joue toujours dans son bain.
Attention, attention, le grand quiz, c'est parti. Pour gagner les cadeaux extraordinaires du kit complet Brasero Panoplie, vous pouvez appeler le standard maintenant au 05 61 53 36 95.
Brasero, on a tout à y gagner, ou presque.
En tout cas, on n'a rien à perdre.
Bah, un peu de temps, quoi, le lundi soir.
Sur Canal Sud
92.jeu.
Non, 92.2.
Ah.
Oui, bonjour, nous avons un premier auditeur.
Oui, bonjour.
Bonjour, est-ce que vous pouvez nous donner les réponses aux questions?
Non, j'en ai rien à foutre de votre jeu, moi je voulais dire une chose. Emmanuel Macron.
Ah, non, c'est pas du tout ça. Je prends un deuxième appel en régie. Oui, allô, bonjour. Ah, je n'entends pas, j'entends mal.
1, 3, 1, 2.
Alors, 1, 3, 1, 2. Donc, combien d'auditrices podcast Bras Zéro en moyenne? C'est la réponse
A, B ou C.
A, B ou C.
Tous les chats sont beaux.
Comment?
Tous les chats sont beaux.
Non, bon, c'est...
Alors... Combien d'auditeurs ou d'auditrices podcast Bras Zéro en moyenne? A, 375, B, 8, C, 1200. Votre réponse est
A.
Exactement, A. C'est la réponse.
Bravo.
A, bravo.
Bravo.
Nous passons à la deuxième question. Combien y a-t-il de personnes dans l'équipe de Bras Zéro? Réponse A, 4 les jours fériés. Réponse B, 23 en été. Réponse C, 9 en hiver.
Vous êtes toujours avec nous? Vous êtes toujours avec nous, mademoiselle?
Oui.
Madame?
C.
C. Très bien.
Oui, ah, tout c'est... à fait. A, C. La troisième question, laquelle de ces émissions Bras Zéro n'a pas fait? A, Bras Zéro télé. B, Bras Zéro faire ses courses. C, Bras Zéro déchets. C'est quelle réponse?
A.
A.
Tout à fait.
Oh là là.
Bravo, 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 bravo.
A. C'est A.
Attention, quelle sera la dernière réponse? Quelle est la couleur du pull de Chico, notre chroniqueur préféré? Réponse A, bleu à paillettes. Réponse B, c'est une marinière. Réponse C, il n'a pas de pull.
B.
Tout à fait.
Bravo. Oh là là.
Ce qui nous fait un résultat de... A-CAB.
Effectivement, A-C-A-B.
Bravo. Alors, restez en ligne.
Quelle coïncidence.
C'est une simple coïncidence, bien entendu.
Bravo, bravo.
Bravo, Bras Zéro.
Quel talent.
Restez en ligne avec nous. Nous vous reprenons hors ligne pour...
voilà, hein, le studio va s'occuper de prendre vos coordonnées.
Les cadeaux extraordinaires. Merci.
Oui, vous avez...
Vous voulez ajouter quelque chose, jeune fille?
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Mais restez en ligne avec
notre régie.
Bravo.
Bravo. Bravo la régie. Bras Zéro.
AG. Une radio. Et j'ai une autre radio.
Putain.
Attention, c'est le troisième, c'est le dernier.
T'imagines là, si on gagne là?
Oh, j'ai une troisième radio, 92,2 millions.
Oh putain.
Tchou. Le million, le million, le million.
J'ai trois radios.
Le million.
Mais le million de quoi?
Bras Zéro, l'émission à 1 million d'auditeurs et d'auditrices.
Bras Zéro million.
Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui, Bras Zéro
voilà,
jeu.
C'est fini.
Merci tout
beaucoup
le monde.
D'avoir écouté.
Merci d'avoir joué avec nous.
Ouais, lâchez, j'ai rien, continuez à jouer.
Ouais. On n'oublie pas.
Donc, et oubliez bien les règles.
La prochaine.
Me dit que oui, il se passe quelque chose.
Ah oui.
Il se passe quelque chose. Tout à fait. Là, je viens de recevoir dans l'oreillette. On a un nouveau leaks. Ah. Donc, on a une nouvelle révélation absolument fracassante.
Ah oui.
Le Yams. Nous avons des choses à dire sur le Yams. On me dit.
Pas n'importe quel jeu.
Attention, c'est parti.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire d'un jeu populaire, le Yam ou le Yamsé. Le Yam est un jeu qui consiste, pour chaque joueur, à l'aide de 5 dés, de faire à tour 3 lancers pour réaliser des figures qui lui rapportent des points. Il s'agira de suites, de carrés, de brelans, j'en passe, et des meilleurs, et la figure maîtresse, le Yam de 5 dés identiques. Aujourd'hui, pour vous, notre envoyé spécial est allé chercher la vraie histoire populaire de ce jeu de dés. Car oui, l'histoire du Yam, ce que vous lirez probablement sur Wikipédia, est une calomnie, une insulte à l'histoire du jeu et à l'histoire tout entière que nous affectionnons tant ici. En effet, selon Internet, le Yam aurait vu le jour au Canada en 1954, inventé par un couple qui, pour passer le temps sur leur yacht, faisait découvrir à leurs visiteurs un jeu de dés nommé le Yacht Game. À Bras Zéro, Nous disons non aux mensonges et à la classe dirigeante hétérosexuelle qui voudrait recevoir tous les mérites des inventions les plus géniales. À vous, notre reporter.
Alors, vous avez inventé le YAMS ?
J'ai inventé le YAMS, tout à fait.
Alors, comment vous est venue cette idée incroyable ?
Bah écoutez, j'ai envie de dire l'inspiration est force de toute chose. Et je suis quelqu'un de très très inspiré. Voilà. Et un jour, je jouais avec un dé. Et je trouvais ça nul. Alors j'ai essayé avec deux. Puis trois. À quatre, j'étais toujours pas satisfaite. Et arrivé à cinq, c'était l'euphorie.
Ouais. Vous n'avez pas essayé d'aller plus loin ?
En fait, je vais vous expliquer une chose assez simple. C'est que quand on dépasse les 5 dés, ils ne tiennent plus dans la main. Certes, il y a des gens ambidextres, mais les gens ambidextres sont
le double yams.
Voilà. Donc je conseille de pouvoir augmenter le nombre de dés aux personnes ambidextres, voilà. Mais le plus souvent, je suis en non-mixité droitière ou gauchère, voilà. Donc je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ce jeu avec des personnes qui ont développé.
Qui souhaiterait sûrement être en non-mixité.
Ambidex, tout à fait.
Ambidé.
Exactement. Et voilà, une fois que j'avais les 5 dés, il ne fallait plus que trouver des formules. Voilà.
Et la 3D, ça existe déjà.
Oui.
La 2D aussi.
Et moi, j'ai inventé la 5D. Voilà. Et ça coûte pas plus cher. Je voulais un jeu économique. Voilà, quand j'ai vu exploser la 3D dans les cinémas et que j'ai vu avec ça une augmentation des prix de l'accès à la culture, je me suis dit il faut faire de l'accès au ludique et donc à la culture. C'est une forme de culture, le YAM.
Est-ce que la question de place dans le jeu, ça vous a toujours... Ça vous a très important, quoi.
Bah,
l'accessibilité...
De toute façon, à la base, le jeu... C'est une des choses les plus accessibles de l'humanité. Tout le monde joue. Autant on peut vivre sans amour, par exemple, même si c'est dur, c'est très dur.
Ouais.
Mais l'être humain...
On peut le comprendre, c'est nous, ça nous arrive pas.
Voilà, voilà. Mais l'être humain ne peut pas vivre sans le jeu. Parce que le jeu, J-E-U, je dirais, est connecté au jeu J-E. Voilà, un enfant privé de jeu... Ne se développe pas, voilà. Ne se développe pas.
Tout simplement, on en voit beaucoup qui n'ont pas joué.
Non, c'est presque impossible de ne pas jouer.
Ouais. Est-ce que c'est beau et pourquoi ce terme de YAMS, d'où ça vous est venu? Parce que c'est vrai que ça sonne extrêmement bien.
Mais...
Ça rend bien, ça rend bien.
En fait, je me suis inspirée d'un groupe qui s'appelle YAMSIE. Voilà, c'est pourquoi le YAM se voit, voilà, traduction française. Et bon, je sais pas pour eux c'était quoi le YAM, mais cette chanson me plaisait beaucoup. Et,
est-ce
et
que le YAM c'est gay ?
Le YAM c'est totalement gay. Le YAM c'est gay, voilà. Le YAM c'est totalement gay.
Alors, on joue complètement avec les horaires, on a complètement débordé, c'est n'importe quoi. Moi, je comptais finir avec un jingle, mais les gens ont plein de choses à dire, alors je leur donne la parole.
Non à l'hétérorisme. Et Chico, ça te dit, on joue à Christophe et le CRS ?
Oui, non, j'en ai marre, je joue toujours le CRS.
Allez.
Et oui, parce que vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais un nouveau jeu est apparu dans les cours de récréation.
Ah ouais ?
Qui est Gilet jaune contre CRS.
Oui,
voilà, vachement plus rigolo que chat, chien, loup, poule, renard, vipère et compagnie, quoi.
En espérant que les Gilets jaunes gagnent à coup sûr.
En espérant. Et des petites cases dédiées, là,
bah
quand
ouais,
même, pour les absents, un peu de privé de jeu.
Ceux et celles qui sont pas là.
À Ludo
T'es pas là, c'est pas beau.
Ariella.
On avait dit pas les prénoms avec Ludo.
T'es pas là, c'est pas bas.
Et à Jota.
N'en parlons pas.
N'en parlons pas, mais on parle la semaine prochaine. Nous écouterons, nous commencerons le premier volet d'une série en trois volets qui s'appelle Porque el corazón no quiere sur les enfants de militants et militantes sud-américaines en exil. Et du coup, ça commence la semaine prochaine. Et dans deux semaines, le 4 février, si ma mémoire est bonne et si mes fiches sont bien, et où il y aura une, on vous invite à venir écouter le second volet de cette série à la radio. Voilà, si vous avez envie de venir regarder le pull de Chico, sa fameuse marinière.
Donc 40 rue Alfred Duméril à Toulouse.
31 400, Toulouse.
Encore félicitations à la gagnante voilà, de et ce oui, soir.
Bravo.
Est-ce qu'elle a choisi déjà un thème d'émission
Non, je l'ai eu au téléphone. Elle a dit qu'elle réfléchissait. Voilà. Mais okay. Pour tous ceux qui ont perdu, vous êtes fait doubler par cette gagnante de 7 ans.
Voilà, une fan.
Eh ben, merci, bonsoir, j'ai envie de dire.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, bonsoir et bon dimanche. Et vive bon samedi.
À samedi.
You lose.
Non, Toulouse.